J'ai choisi pour cette présentation, conformément un peu à la commande qui m'a été faite, de donner quelques repères théoriques et historiques relatifs à la pratique spécifique des démographes pour anticiper les évolutions démographiques futures. J'expliquerai également les principaux domaines où les prévisions, perspectives, projections démographiques sont utiles et soulignerai quelques écueils à éviter pour mener à bien l'exercice. Je vais donc, dans une longue introduction, rappeler quelques points concernant la pratique des projections, des perspectives, des prévisions, de la prospective des démographes, puisque je suis démographe et économiste de formation, donc on aura des occasions, je suppose, de dialoguer. Donc, un rapide rappel sur ce qu'est l'analyse démographique. L'analyse démographique, c'est une forme d'analyse statistique qui est adaptée à l'étude des populations humaines. Une définition d'un des pères de la discipline, Roland Pressa, dans Dictionnaire de démographie. Donc, on a des données issues de recensement, état civil, de dispositifs de recueil de données, de sources de données. Et on va essayer de transformer ces données en indicateurs et pour comprendre comment les populations se renouvellent essentiellement d'un point de vue quantitatif. Donc ces méthodes statistiques ne font pas appel à des connaissances mathématiques très importantes. Hein. Il faut démystifier l'aspect méthodologique, la trousse à outils méthodologique des démographes, elle n'est pas si fournie que ça. Et donc parmi les différentes spécialisations de l'analyse démographique, on trouve une spécialisation qu'on appelait la perspective démographique. Les perspectives démographiques, donc moi quand j'ai fait mes études, on nous formait à la perspective démographique. Et le mot perspective démographique renvoie à une démographie assez appliquée, mais j'avais aussi l'occasion d'avoir des enseignants qui me parlaient de prévision démographique. Et aujourd'hui, on utilise bientôt plus que le terme de projection démographique. Est apparue aussi la question de prospective démographique. Donc, il me semble utile peut-être de démêler un petit peu ces points-là, qui ont à voir avec, bien sûr, les horizons des projections, la fiabilité, la nature, bien sûr, des données que l'on peut projeter. Et finalement, certains auteurs vont nous dire que tout ça, ce sont des précautions de langage et que tout ça, c'est pareil. Donc, moi, je vais vous dire un petit peu comment je vois les choses de ce point de vue-là. Donc la simulation, si on reprend les origines, hein, selon le démographe Roland Pressa, c'est une manière de tracer une histoire fictive de population, en prêtant aux membres ou aux groupes qui composent cette population certaines lois, certains comportements en matière démographique. Donc, le terme simulation, il est presque plus englobant que projection, perspective, prévision. Donc, les toutes premières simulations qu'on a pratiquées en démographie, on parle aussi parfois de macro-simulation, consistent concrètement en quoi ? On fractionne notre population, c'est-à-dire qu'on la découpe en groupes, qui sont souvent des groupes d'âge pour chacun des sexes. Et ensuite, on va essayer de calculer le devenir de ces groupes d'âge et sexe en s'appuyant sur des lois. Alors, c'est quoi les lois pour un démographe ? C'est tout simplement, souvent, les tendances d'évolution passée de la fécondité sur lesquelles on va s'appuyer pour imaginer des tendances d'évolution futures. Donc, on prolonge des tendances passées. Ça, c'est ce qu'on va appeler plus tard la tendance centrale. On va imaginer éventuellement des croissances un peu plus importantes ou un peu moins importantes. On va essayer d'imaginer les futurs en s'appuyant sur un certain nombre de tendances passées et en faisant donc, bien sûr, des hypothèses. Donc, concrètement, la définition des perspectives, c'est une méthode de détermination de l'évolution future d'une population établie sur la base d'hypothèses. Et ces hypothèses, elles sont plus ou moins détaillées quant à l'avenir de ce qu'on appelle les composantes qui commandent l'évolution. Les composantes qui composent une évolution sont à identifier, qu'on veuille projeter l'évolution d'une entreprise, qu'on veuille projeter des évolutions de dépenses de santé. Donc les composantes, pour dire vite, le plus souvent en démographie, sont des composantes qui alimentent la croissance. Alors il y a deux grandes catégories de composantes qui alimentent la croissance naturelle et la croissance migratoire. Donc on va dire rapidement que la croissance naturelle, naissance, décès, va falloir, on est assez à l'aise, assez au point pour en imaginer les futurs. Presque, c'est de la projection qu'on pourrait faire sur des animaux. Les projections migratoires sont beaucoup plus difficiles à faire, hein, puisqu'elles dépendent davantage des décisions politiques, d'ouverture, de fermeture, de naturalisation, de politique. Hein. Donc on va être très à l'aise, les démographes, hein, quand il s'agit de projeter des composantes naturelles, fécondité, mortalité, risque de mourir. Par contre, on ne s'hasarde que plus difficilement dans des projections qui font appel aux migrations. Alors, nonobstant, on y reviendra, on va travailler souvent en population fermée, parce que l'hypothèse est intéressante en elle-même. S'il n'y avait pas de migration, comment évoluerait, hein? C'est donc ces 10 hypothèses de travail. Et puis ensuite, on peut faire rentrer des influences migratoires avec des inconnus sur la fécondité des immigrés, est-ce qu'elle va être, elle va s'adapter à la fécondité nationale ou pas, etc., etc. Le plus important, c'est donc les hypothèses et donc la nature des éléments qu'on va devoir projeter. Donc les hypothèses, elles portent le plus souvent sur la fécondité ou la mortalité, afin donc d'anticiper comment les phénomènes vont évoluer. Donc on prend une série de risques de mourir à un âge donné, pour un sexe donné, et on imagine comment ces risques de mourir, ces probabilités de décéder vont évoluer, soit au même rythme que les années passées, soit un peu plus vite, un peu plus favorablement, avec donc des hypothèses plus ou moins hautes ou basses. Ce qui est intéressant, c'est que hein, donc ces projections, enfin ces simulations, on peut les faire aussi bien au niveau national qu'à des niveaux plus intermédiaires, voire sur des plus petites populations. Mais il faut garder en tête hein, que plus vous travaillez sur des petites populations, plus vous allez être instable. Hein, donc si dans vos projections, donc c'est presque plus facile de travailler à un niveau agrégé qu'à un niveau trop fin. Donc on pourra en reparler dans les discussions si vous voulez. Moi personnellement, j'utilise plutôt le terme de perspective démographique par rapport à la définition que je viens de donner. Et je réserve plutôt l'utilisation du terme prévision démographique pour des anticipations d'évolution de population lorsque l'horizon de la projection, l'horizon de la perspective est assez court, 10-15 ans, hein, et lorsque les hypothèses sont du coup très hautement probables. Donc la prévision a un caractère, on va dire, plus certain. D'ailleurs, on parle de prévision scolaire, prévoir pour un établissement le nombre d'élèves qui vont arriver dans la classe d'ici quelques années, avec le problème donc des migrations qui vont intervenir là justement à ces échelles fines. Et puis, je réserverai plutôt le terme de projection pour des perspectives démographiques où l'idée de prévision est assez absente, c'est-à-dire où les hypothèses ne sont pas nécessairement semblables, les hypothèses ne sont pas nécessairement probables. Il y a un horizon démographique beaucoup plus éloigné, donc 50, 60 ans, c'est plutôt les projections. Alors ce terme de projection. On verra pourquoi aussi c'est un peu diffusé sur l'influence aussi du monde anglo-saxon avec des faux amis sur, qu'on pourra revoir tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si j'étais claire, mais prévision court terme, perspective horizon intermédiaire où les choses sont un peu plus probables, donc 30 ans, 40 ans, des horizons 50, 60 ans, voire plus, plutôt projection. Donc, pour le terme de prévision, en anglais, on utilise plutôt le terme de prediction ou forecast. Donc, ce qui c'est aussi la raison pour laquelle, quand on utilise le terme de projection, on est sur un terme qu'on reprend et sans se poser la question de savoir si ça correspond exactement à ce qu'on veut faire, nous, en français. Donc là, je suis déjà peut-être un petit peu longue. Alors, donc vous voyez que ça, si on pose les choses, mais alors certains, tous les auteurs ne sont pas aussi pointilleux sur cette distinction. Vous avez par exemple un auteur, la liste n'est bien sûr pas exhaustive, comme Hervé Le Bras, qui se singularise par exemple en disant qu'il n'y a pas de réelle différence finalement entre projection, perspective et prévision. Son point de vue est résumé dans la phrase suivante. Les démographes distinguent habituellement les prévisions des projections ou des perspectives. En y regardant de plus près, on y trouve plutôt une précaution de langage qu'une différence de nature, puisque si on fait une seule projection, on est dans la prévision. On introduit une seule hypothèse. Futur probable et futur possible se confondent. À l'inverse, si on fait plusieurs hypothèses et qu'on distingue une tendance centrale très hautement probable, le scénario le plus probable devient en fait une prévision. Donc lui, il dit que ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas cette histoire d'horizon, de fiabilité des hypothèses. Ce qui compte, c'est la nature des quantités qu'on va projeter. Et la nature, effectivement, des quantités, c'est sur ce sur quoi on bute le plus souvent. Et c'est ce qui, le plus souvent, rend caduque une prévision qui, apparemment, paraissait simple à faire. Donc, on sera d'accord qu'il est beaucoup plus facile de projeter, de prévoir la population des personnes âgées dans 10 ans que de celui du nombre d'immigrants ou du nombre d'étrangers qui pourra être accueilli. Donc, ce problème de la nature des quantités distingue des phénomènes qui sont plus biologiques, de phénomènes qui sont davantage impactés, des phénomènes sociaux à évolution lente, notamment les migrations, mais pas seulement. Toutes les décisions politiques et économiques qui peuvent intervenir, que ce soit des besoins en main-d'œuvre étrangère, les politiques de retour, les taux de chômage, les politiques de naturalisation, toutes ces décisions vont avoir un impact. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quel que soit le résultat de la projection, quand la projection, une projection sur le nombre de personnes âgées à atteindre, dans nos sociétés en tout cas, a priori ne change pas le cours des événements. Même si on projette qu'il va y avoir une multiplication par 10 des centenaires d'ici l'horizon 2060, donc ce qui est une réalité, on en a 20 000 aujourd'hui, on en aura 200 000 à l'horizon 2060, quand même une évolution qui me semble très, très importante et dont on parle peu, cette annonce ne nous conduira pas à faire disparaître les centenaires parce qu'ils constitueront une charge. Par contre, annoncer l'immigration sera un problème trop important peut conduire à avoir des effets, comme à la bourse, des effets d'annonce et de réaction sur les phénomènes qui sont introduits. Donc il y a une distinction à faire entre prévisions techniques et des prévisions plus idéologiques ou historicistes, au sens de Weber dans Le Savant et le Politique. Alors les projections techniques, elles ont pris leur essor dans les années d'après-guerre, sous la pulsion des besoins des économistes notamment. Elles ne s'aventurent guère, je le disais, au-delà de 10 ans. Elles se fondent sur des extrapolations issues de l'inertie démographique. Elles vont avoir elles vont mettre en œuvre des méthodes parfois même assez sophistiquées. Certains ont même parlé de sur-sophistication. Des auteurs comme Hayek ont ont souligné hein, que l'étude de la société doit néanmoins toujours être opposée à celle du monde physique. La société ne peut pas être considérée comme une donnée. Et donc, même, c'est surtout vrai dans le cas des projections sur le long terme. On peut sur le court terme projeter comme la population simplement comme si c'était une donnée. Par contre, quand on est sur un horizon un peu plus long, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de faire abstraction de l'influence du reste. Donc tout ça, j'accélère un petit peu parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais certains disent donc à la fois qu'il faut tenir compte des phénomènes sociaux pour anticiper le futur, mais qu'en même temps, ce n'est pas facile de le faire, et que donc on est dans une sorte d'illusion, et que l'idéal, hein, c'est d'arriver à réfléchir à des projections un peu dérivées, c'est-à-dire faire des perspectives établies à partir de perspectives. Donc, les projections dérivées, il faut les éviter d'une certaine manière, parce que quand on est démographe, notre travail s'arrête à dire, voilà, le nombre, la population active en âge de travailler sera de temps à tel horizon. Si je continue au-delà, je suis dans la projection dérivée, c'est-à-dire que je me permets d'imaginer quel pourrait être le taux de chômage à déduire de cela, quel pourrait être... voilà, donc le démographe, lui, il va faire quelque chose d'assez tranquille et on recommande souvent, nous, à nos collègues démographes, de ne pas s'aventurer sur un autre terrain que celui de la projection un peu technique pour éviter justement de se voir reprocher d'avoir fait des projections dérivées et donc de mauvaises projections une fois que les prédictions n'auraient pas été réalisées. Et on va peut-être là arriver au propos que Anna Gouvert va nous présenter tout à l'heure, c'est que une autre possibilité qui s'offre à nous est aussi de réfléchir à des travaux comme ceux du philosophe Karl Popper qui nous dit que finalement le reproche qu'on peut faire à tous ces efforts d'anticipation du futur, c'est de raisonner en prophétie, c'est-à-dire en annonce, plutôt qu'en prévision technologique. Et donc là, on introduit la notion de prospective, c'est-à-dire au lieu d'imaginer, on sait à quel endroit un séisme va se produire, donc on sait quand la catastrophe va se produire, l'idée c'est on informe les habitants hein, pour qu'ils puissent fuir, donc là c'est la prophétie. Mais dans le cadre de la vraie prospective, la vraie prévision technologique, on a anticipé et donc on a déjà construit des bâtiments qui sont capables de résister à la catastrophe. Donc cette idée de prospective, elle est là, c'est pas tant, on sait ce qui va se passer, donc comment on peut agir aujourd'hui pour éviter que les choses ne se produisent, sachant qu'on est sûr qu'elles vont se produire. Donc ce qui est important, hein, c'est de voir dans quelle mesure le démographe, par exemple, peut participer à réfléchir le type d'action qui permettrait d'éviter les conséquences d'un changement démographique, annoncer certains, comment s'adapter. Et donc, Anna nous en parlera plus précisément tout à l'heure. Je suis dans les temps. J'ai encore un petit point. Encore 10 minutes. Voilà, merci. Alors, je ne vais pas rentrer donc sur l'aspect technique, comment on fait les projections, vous l'avez compris, hein, on simule des futurs en regardant les tendances passées de la mortalité, en imaginant comment les femmes vont avoir des enfants, comment les nouveaux arrivants dans des classes d'âge vont se comporter, et donc l'intérêt hein, de la prospective, c'est aussi qu'elle se permette des hypothèses un peu plus audacieuses que ce que des instituts de statistiques sérieux, mais un peu classiques parfois, font. J'ai regardé de près des notes méthodologiques de l'INSEE sur la façon dont ils réalisent leurs projections. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, on utilise une méthode qui s'appelle donc la méthode des composantes. Ce n'est pas la seule, il y a des possibilités de faire des projections avec des matrices, enfin, du calcul matriciel, etc. Quand l'INSEE réalise ses projections, donc le plus dur, ce n'est pas de faire la projection, c'est de faire ses hypothèses. D'accord ? Et les hypothèses, ils font appel à des experts. Donc si on regarde, ils envoient un questionnaire à des experts qui sont un peu comme nous aujourd'hui autour de la table, des démographes, des statisticiens, des décideurs, et ils leur demandent leur avis sur l'évolution à attendre de l'âge moyen des femmes à la maternité. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent de, des politiques migratoires et donc qui vont être mises en place au cours des 10 prochaines années. Et donc, ils font un tour de table, ils renvoient les questionnaires à l'INSEE. L'INSEE, donc, en prend, enfin, les résume et souvent ne publiera de toute façon que la tendance centrale, c'est-à-dire l'hypothèse, la perspective la plus probable. Et que les experts qui iront regarder les autres scénarios. Donc ces autres scénarios qui sont espérance de vie qui ne serait pas en projection aussi importante que celle qu'on imaginait, malgré tout, malgré le fait que ça vienne de consultations avec des experts, sont souvent assez classiques. D'accord, ce n'est pas très audacieuse, contrairement à ce que les prospectivistes, eux, vont oser éventuellement tenter. Ce n'est pas parce que c'est plus audacieux que c'est plus intéressant ou que c'est pertinent. Voilà, c'est juste que nous, on est dans un périmètre assez, somme toute, peu audacieux. Juste un point, un point intéressant. Les projections sur des durées assez longues peuvent aussi avoir un intérêt, projection jusqu'à l'horizon 2100, pour voir des générations entières s'éteindre. C'est-à-dire que là, on est dans certains pays avec des baby-boomers qui arrivent déjà massivement à l'âge de la retraite. Et puis, à un moment donné, on a les plus jeunes générations de baby-boomers, les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui finissent la cohorte des baby-boomers, eh bien, ils vont avoir complètement disparu en 2075. Donc, on réfléchit aussi à des horizons très longs parce qu'on a cette inertie des phénomènes démographiques qui est très intéressante. Donc, voilà, selon l'horizon, selon l'exercice, selon l'intention, selon qu'on veut faire de la prévision, de la perspective, on peut modifier son horizon, introduire ou pas de la migration d'un point de vue... pour voir ce que ça fait s'il n'y a pas de migration, et pour ensuite mieux se rendre compte de ce qui se passe si on introduit de la migration. Je passe à ma deuxième partie pour vous dire que j'ai intitulé « Anticiper le futur, la recherche de l'optimum ». La recherche de l'optimum démographique, l'optimum, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être le meilleur, eh bien, en fait, ces préoccupations de recherche de ce qu'il y a de mieux. Pourquoi on fait des projections? C'est pour trouver finalement le meilleur équilibre pour une population, pour une entreprise, pour un système, la pérennité d'un système. Ce sont des préoccupations qui ne datent pas d'aujourd'hui. De tout temps, dans toutes les civilisations, les penseurs, les décideurs se sont inquiétés de la croissance de la population. Et donc là, j'ai relu Jacqueline Hecht, que vous connaissez peut-être, qui a écrit sur l'histoire de la pensée démographique avec un grand bonheur. Elle a peu publié sur ce point-là. Et elle distingue notamment trois grandes périodes dans l'histoire des questions de population, des doctrines liées aux questions de population. Rapidement, je rappelle jusque de moins 500 avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle à peu près, c'est-à-dire jusqu'au Moyen Âge. On a un point de vue sur la population qui est essentiellement religieux, moral, politique. Et donc, dans cette période, tous les points de vue sont plutôt populationnistes, c'est-à-dire qu'on aspire à avoir une population toujours plus forte, toujours plus grande. On encourage la procréation, on est dans le culte de la fertilité, de la fécondité dans toutes les religions, avec des exceptions suivant les civilisations et les périodes. Hein, mais l'idée, c'est qu'il n'est pas question de limiter les naissances, les enfants sont une richesse, etc. Les famines et les guerres nécessitent une descendance importante. Et donc, toutes les grandes religions monothéistes, on retrouve l'exaltation de la procréation. Je ne détaille pas ici. Mais c'est surtout dans les traités politiques, dans les traités économiques, qu'on va voir combien les questions de population sont importantes dès avant Jésus-Christ. On a des écrits d'un auteur indien comme Kantilya qui, dans un traité de sciences politiques et économiques, écrit déjà « La population est source de toutes les entreprises, c'est d'elle que vient la puissance. Un pays dépeuplé, semblable à une vache stérile, ce sont les hommes, l'élément essentiel de la puissance. Ils cultivent la terre et constituent les armées. » Cet auteur interroge également la question de la densité idéale d'une population. Il lui faut une population éparpillée sur l'ensemble de son territoire pour un meilleur contrôle de celui-ci. Il est partisan de l'immigration. Voilà, donc un auteur, chez Confucius également, il rassemble vers moins 500 avant Jésus-Christ différents écrits classiques. Il retrouve donc que la population, un vaste territoire, un peuple nombreux sont des choses conformes au désir d'un homme sage. Il est devoir de l'homme de se reproduire. Mais très tôt, les Confucéens vont pressentir un rapport étroit entre territoire, population et richesse disponible. Et ils vont préconiser très tôt que face à un manque de nourriture, on modère ses désirs, on conserve ses richesses, on fasse preuve de prévision en stockant les denrées en période d'expansion. Et si malgré tout ça ne suffit pas, il faut envisager l'émigration obligatoire, donc faire partir les populations, voire même la mort. Les prévisions permettaient d'imaginer une régulation de la population qui va avoir parfois des réalités concrètes pour les populations. Donc il faut une population équilibrée, basée sur une bonne répartition et une occupation des terres. Donc on va voir les recensements se développer dès ces périodes-là. Et on recommande l'accroissement démographique tout en relevant déjà des obstacles à l'accroissement. Je passe sur ensuite les doctrines grecques en matière de population. On distinguerait deux périodes, une période de Grèce antique plutôt populationniste et une période de Grèce classique qui va adopter une conception limitative. Donc la Grèce est un peu une exception à cette période-là. Il y a de nombreuses raisons sociales et politiques qui vont pousser la Grèce, pays pauvre, peu fertile, à limiter sa population. Elle s'inquiète de l'accroissement de sa population, dangereuse, peur des étrangers, les métèques, les esclaves. On souhaite également des enfants parfaits, donc on va pousser à l'accouplement des plus beaux hommes avec les plus belles femmes. Et on souhaite avoir des fils. Progressivement, en pratiquant ce type de recommandation, l'équilibre des sexes va être perturbé, puisqu'il y a des autorisations d'infanticide sélectif, d'avortement, d'abandon des enfants, d'exposition des enfants. Et donc, très vite, la population trop importante est vue comme une marque de barbarie. Le mieux, c'est une population constante, immuable, que les démographes, nous, on appelle ça une population stationnaire. Donc, chez Platon comme chez Aristote, un État trop peuplé, c'est vu comme un déséquilibre économique et on est en recherche d'eugénisme assez tôt. À Rome, la tendance est plutôt populationniste, expansionniste, mais progressivement, on ne sait pas trop pourquoi, mais les conditions de vie des populations s'améliorant, on va voir assez tôt la fécondité baisser, la mortalité baisser. Alors là, comme on est inquiet de plus avoir assez de population, on va tout faire pour mettre en place des mesures pour enrayer la dénatalité. Donc, alors, c'est très innovant, mais on le voit encore en Italie aujourd'hui, hein, où on veut donner des terres à des familles pour qu'elles aient des enfants. Ben, c'est un peu ça. On interdisait aux femmes de porter des bijoux si elles n'étaient pas mariées avant 24 ans, hein, ou de se faire transporter dans des véhicules. On interdisait aux garçons de se marier. Si les garçons ne se mariaient pas, ils ne pouvaient pas aller au match de foot de l'époque, qui étaient donc les Jeux. Vous voyez que c'était des choses très concrètes, mais ça n'a pas bien marché. Seconde période de l'histoire, 15e, 19e siècle, jusqu'à la fin du 18e siècle, avec bien sûr Malthus qui marque cette fin de la période. C'est une période qui va se fondée sur le point de vue numérique. Donc, de la Renaissance au XVIIIe siècle, c'est la naissance de la quantification. Donc, c'est la naissance, la mise en place de la science statistique. C'est l'âge d'or de la démographie. Hein, donc, c'est, si vous voulez, c'est à partir de ces périodes-là, cette période-là, qu'on va commencer à essayer trouver des notions de valeur pour dire est-ce que un pays deux fois plus peuplé, deux fois plus riche, on est dans cette préoccupation de régulation de la croissance de la population. On commence à réfléchir au fait que l'accroissement démographique arithmétique avec une géométrique avec un accroissement de la population qui serait arithmétique serait un problème, c'est-à-dire si on a un accroissement trop important de la population face à un accroissement des richesses. Voilà, donc on est quand même dans une période où on a besoin de bras, puisqu'on est à la conquête du Nouveau Monde. Le mercantilisme nécessite une main-d'œuvre nombreuse, si possible peu coûteuse. Donc, c'est une période dans laquelle on va s'intéresser au rapport population-subsistant. Je vais un petit peu plus vite. Les subsistances commencent à être une question qui interfère avec la question de la population. Dernière période, 18e à nos jours. Donc, c'est Malthus. À nos jours, on est maintenant très soucieux. On remarque que la cause essentielle du malheur des hommes, c'est l'accroissement démographique non équilibré. On assume vraiment un point de vue de plus en plus malthusien. On a un combat malthusien anti-malthusien qui va être progressivement nuancé, notamment par des collègues belges comme Quetelet dans les années 1920. Et puis, on va découvrir des lois, la loi logistique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et on commence les premières projections avec les méthodes que j'annonçais tout à l'heure, à avant-guerre, puis surtout dans les années... Donc avant-guerre dans les années 1930, puis après-guerre avec l'essor de la méthode des composantes, avec Alfred Lotka aussi, qui plaide pour l'intégration des migrations dans les prévisions de croissance. On invente dans les années 1970 le calcul matriciel. On commence à voir les grandes organisations comme les Nations Unies qui font leurs premières projections dans les années 1950, les premières perspectives mondiales 1958, les perspectives des Nations Unies sont revues tous les 5 ans, puis tous les 2 ans. Et voilà, donc on commence à mettre en place des choses qui fonctionnent et d'autres organismes comme l'OCDE ou des centres de projection latino-américains dans les années 60, l'Amérique latine, la Banque mondiale à partir de 1978. C'est vraiment l'essor des projections à l'aide de méthodes décomposantes. Et puis récemment, on l'a abandonné. On l'a assisté à certaines... Les Nations Unies n'utilisent plus la méthode décomposante. Pour en reparler, c'est parfois un peu dommage. Et j'en termine là. On pourra peut-être parler des domaines d'application des projections, de politique et économique, politique et économie, la santé, etc. Voilà, je vous remercie si j'étais un petit peu longue.